RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec mon entraîneur préféré, le meilleur coach de France qui est là, en studio en plus, en plateau à Paris. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît.
Ça va?
Ça roule?
Bon, on sort d'une pyramide.
Ouais, exactement.
Une petite séance de fartlek.
Ouais, je voulais voir si t'étais un lève-tôt. C'est 9h30, t'étais au rendez-vous, affûté comme jamais.
Bon, 9h30, on considère que c'est tôt?
Pour moi, oui.
Ah oui, d'accord.
T'as pas vu que j'avais les yeux collés,
ouais,
en fait?
C'est vrai. Le feignant, il m'a dit, bon, je vais rester avec toi, il a pas envie de se faire mal.
Non, bah, je voulais voir si tu ventilais bien, si tu respirais bien, si la foulée était aérienne. Effectivement, c'est bon, je peux repartir, mon poulain est prêt.
Bon, magnifique. On est content que tu sois là parce qu'on a un bel épisode aujourd'hui. On vous remercie d'ailleurs pour le soutien que vous nous communiquez sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement.
Toujours, hein, tous les jours.
Sur Instagram, sur le club RMC Running également, sur Strava. Et on est très content de vous présenter cette thématique et cet invité aujourd'hui. On va recevoir François-Régis Gaudry. Si vous aimez la bonne bouffe, eh ben forcément vous connaissez ce nom. Journaliste, critique gastronomique, vous l'avez certainement entendu sur France Inter, dans l'émission On va déguster, dans l'émission de télé Très Très Bon, dans différentes émissions, dans différents magazines. Il a écrit pas mal de livres, il a des vidéos YouTube qui cartonnent. On va le recevoir parce que c'est un passionné de course à pied qui fait du marathon désormais. Donc la thématique du jour, c'est comment mixer bonne bouffe et course à pied. Et pour cela, on accueillera également notre nutritionniste d'RMC Running, notre amie Alice Michel, qui sera là. Alors on y va, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC. Salut François-Régis.
Bonjour. Bonjour
à tous. Cette voix de radio, c'est incroyable. T'as vu, c'est quelque chose.
Hein.
Je suis ravi d'être là.
La classe.
Eh ben, nous, on est contents de te recevoir. On est très heureux également d'accueillir notre amie Alice Michel, qui est là. Salut Alice.
Salut, bonjour à tous.
Eh ben, content que tu sois là. Alice, elle vient de gagner le 5 km de Charenton le week-end dernier. Donc,
bravo.
Tout simplement.
Ouais, c'était Malakoff, mais presque.
Ah, Malakoff, pardon. Ah, c'était Malakoff.
Charenton, c'est bientôt. C'est dans 2 semaines, je crois.
Bon, bah, tu le gagneras aussi, comme
oui,
ça. On
voilà.
Le verra dans 2 semaines, l'épisode.
Bah, j'y serai pas, mais.
Ah, mince, ok.
Je pourrais pas le gagner.
Ça va, Alice, t'es en forme?
Ça va, ouais, merci. Ouais.
Bon, bel épisode qui nous attend. François-Régis, on pose toujours la même question pour commencer. Pourquoi tu cours, tout simplement?
Je cours sans doute pour renouer avec de très anciens souvenirs. Je courais quand j'étais petit avec mon papa qui est d'ailleurs un passé d'athlète parce qu'il a été 13 fois sélectionné dans l'équipe de France d'athlétisme.
Ah ouais?
Ah ok,
ouais, ouais,
quelle
ouais.
Discipline
400 mètres et 4 fois 400 mètres. Il a été recordman de France en 400 mètres, etc. Et puis il s'est même préparé pour les JO de Mexico en 68, mais il s'est pété le tendon d'Achille 2 semaines avant de partir aux Jeux Olympiques. Et il a toujours couru, mon papa. Alors, il courait en 400 mètres, en 4 fois 400 mètres. Et puis, c'était un grand coureur, mais un coureur du dimanche. C'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas les montres connectées,
oui.
On ne savait pas exactement le kilométrage que
exactement.
L'on faisait.
Ah bah oui,
et
oui.
Où, en fait, on courait pour trouver une espèce de confort dans l'effort,
ouais.
Mais sans performance. Il ne faisait pas de course, mon père. Il n'a pas fait de marathon. Enfin, et après ouais. Son passé de sportif.
D'accord.
Et du coup, il m'a appris à courir comme ça. Et je courais avec lui le dimanche, très souvent. Mais je m'y suis mis un peu plus sérieusement parce que j'ai arrêté de courir à la suite d'un problème de dos en 2011.
Ouais.
Et puis je me suis remis à courir justement en septembre 2024, donc c'est tout récent, ça
ah
fait
ouais.
Moins de 2 ans. Et là, je me suis dit bah, pourquoi pas porter un dossard et puis essayer d'aller un peu plus loin à l'approche de mes 50 ans pour voir ce que ça donne. Quoi. Voilà.
Et du coup, t'es piqué parce que t'as fait Marathon de Paris l'année dernière, Marathon de La Rochelle et tu repars pour l'aventure Marathon de Paris cette année. Quoi.
Ouais.
Ouais.
Et j'adore ça, ouais, je suis piqué, on peut dire ça comme ça, parce que je considère que c'est un truc un peu addictif en fait.
Bon, magnifique, on en saura plus avec toi dans un instant après ton CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
T'as quel âge aujourd'hui François Régis?
Eh bien j'ai 50 ans tout pile, je les ai eus le 19 août dernier.
Ah bah magnifique, donc tu recours depuis 2024, c'est ça?
Oui,
okay.
Je me suis vraiment remis en septembre 2024.
Tu cours combien de fois par semaine?
Entre 3 et 5 fois, parfois 6.
Ah quand même,
c'est pas mal.
Ouais, j'essaie de courir régulièrement.
Ça représente combien de kilomètres?
Bah, ça représente un volume, quand je suis en prépa, je monte jusqu'à 60 kilomètres. Ouais. Et
okay.
Puis sinon, en moyenne, je suis autour de 40.
Mmh. D'accord. Un record perso dont tu es fier?
Un record perso dont je suis fier? Mais non, mais c'est mon record. Enfin, c'est mon record. Alors, j'ai pas, par définition, un grand passif de marathonien parce que j'en ai fait que deux. J'ai fait le marathon de Paris l'an dernier.
Ouais.
Et j'ai fait le marathon de La Rochelle... le 30 novembre 2025, où j'ai fait... je m'étais fixé 3h30
ouais.
Et j'ai fait 3h24.
Ah bravo.
Donc je suis descendu
sous les 3h30
et ça m'a fait plaisir parce que c'est mon deuxième marathon et j'espère que je vais continuer à évoluer.
C'est pas les plus faciles. Hein.
Ah bah non.
Parce que La Rochelle c'est pareil, les conditions météo sont parfois compliquées.
Alors
c'est
moi j'ai eu une chance énorme, ça a été un grand ciel bleu, 8 degrés, météo parfaite.
Ah, parfaite
alors
cette année,
je pense que ça a joué aussi évidemment.
Ah ouais.
Je me suis senti en forme, j'ai poussé un peu. Et puis j'étais
24,
j'étais très content, ouais.
À 50 ans.
Ouais. Non mais d'autant que j'avais commencé en fait au premier marathon, le tout premier marathon c'était celui de Paris.
Ouais.
Je m'étais fixé d'être sous les 4 heures, j'avais fait 3h48, là 3h24 et puis je vais essayer d'aller un peu plus loin sur Paris où je vise
moins de 3 heures.
Bah je vise 3h15 et puis 3h15, après ouais. J'aimerais bien dans un délai d'un ou deux ans passer sous les 3 heures, c'est un peu l'objectif.
Ah bravo. Eh ben tu sais qu'on peut t'aider, on peut t'encadrer, nous on peut t'accompagner.
Ah, bah, t'as besoin de coaching.
Welcome.
C'est quoi la prochaine course que tu vas disputer alors?
Ça va être le semi-marathon.
Le semi. Tu vas faire semi et marathon.
Dont on m'a toujours dit, parce que j'ai jamais fait de semi de ma vie.
Ouais.
J'ai jamais fait de 10 km non plus. Ah. Je me suis contenté de marathon. J'ai fait le Paris-Versailles en octobre dernier.
Ouais.
Mais c'est vrai que le semi-marathon, on me dit souvent que c'est idéalement placé pour le marathon de Paris, que c'est une bonne
dans
prépa.
Exactement.
Voilà, donc j'y vais.
C'est du plaisir en plus, le semi. Tu vas
Il paraît.
Tu vas voir.
Ouais, c'est
tellement
moins...
dans mon entourage, m'en parlait.
Ah, moins intense qu'un 10 km qui te prend un peu à la gorge,
ouais.
Et c'est moins traumatisant musculairement qu'un marathon, et même mentalement, ça te demande moins de présence pour le semi. Ouais.
C'est quoi ta séance d'entraînement préférée?
Alors honnêtement, c'est ma sortie longue du dimanche.
Voilà, le dimanche,
solo.
Le plaisir.
Ouais, solo. Alors, j'ai un coach pour du fractionné, je fais une séance le mardi. Donc séance tempo et puis ensuite je m'organise un peu tout seul, parfois je cours aussi en groupe parce que j'appartiens à la maison Radio France et il y a un club running qui réunit pas mal de malades de course à pied et on fait une sortie hebdomadaire entre 12 et 15 km selon la forme de chacun et là on y va chacun à notre rythme et c'est assez cool parce que c'est un vrai moment social,
ouais,
on se donne des nouvelles, les coureurs sont devenus des copains, on parle de marques de chaussures, on parle de quasiment que de course à pied, et après j'aime bien mon rendez-vous en solo, mon rendez-vous avec moi-même de ma sortie longue qui va de 19 jusqu'à 32, 33 km à l'approche des échéances, et là j'aime beaucoup, je suis au bois de Boulogne, pas très très loin de la maison de la radio où je travaille le dimanche puisque j'ai une émission en direct là-bas, et puis là j'aime bien parce que
on est seul avec ses pensées,
on est seul et puis on est seul dans l'effort, et puis c'est assez long, donc on a le temps de voir la course se dérouler, et puis j'aime bien, j'ai pris mes habitudes au bois de Boulogne où je commence à connaître le grand lac,
les routes fermées, tout ce qu'on aime.
Exactement.
Tu peux dire à Alice Michel que le bois de Boulogne c'est mieux que le bois de Vincennes, parce que moi j'arrive pas à la convaincre.
C'est vrai que je suis assez bois de Boulogne. Après j'ai fait quelques courses au bois de Vincennes, puis j'ai traversé aussi le bois de Vincennes avec le marathon.
Bien sûr.
Et je dois reconnaître que c'est quand même un joli environnement aussi, quoi.
Mais il fait toujours gris, il y a un microclimat au bois de Vincennes, il fait gris toujours. On sait pas pourquoi.
T'es pas à Vincennes ce week-end, parce que
bon bah écoute, on est très content de te recevoir, on est bluffé un peu par ton profil parce que se mettre au marathon à 50 ans, faire 3h24, c'est quand même très très solide. Ce parcours déjà, on l'a dit, de sportif, la course à pied avec ton papa, ton parcours de journaliste aussi et cette passion pour la cuisine parce que c'est ça qui t'anime, tu en vis aujourd'hui, c'est ta vraie passion, t'as une émission sur France Inter, je te dis, y a des ouvrages, il y a des vidéos YouTube, il y a tes programmes télé. Tu vis de ta passion qui est la cuisine. Ta vraie passion, c'est ça, c'est la cuisine.
Mais en fait, c'est un peu les deux héritages de mes parents, je m'en rends compte. Parce que mon père était donc sportif de haut niveau, équipe de France, etc. Puis il était doué pour tous les sports. Moi, il m'a appris à skier, il m'a appris à jouer au tennis. J'ai jamais pris un
cours. T'as grandi où, toi?
J'ai grandi à Lyon.
Ok.
Je courais
pas loin de tout, en fait.
Je courais à Lyon. Exactement. Ouais. Je courais à Lyon dimanche. On n'était pas loin de la montagne, effectivement. On avait même la chance d'avoir un appartement à Chamonix où mon papa m'a appris à skier. Il était vraiment doué pour tous les sports. Mmh. Voilà, il y a des gens comme ça. D'ailleurs, mon père, il a 84 ans. Il a une forme olympique. Il continue à faire. Il fait du vélo, il court. Enfin bon. Et puis ma mère, effectivement, d'origine corse, très portée sur les bonnes choses et la bouffe.
Ok.
Et j'étais dans une famille nombreuse avec deux grands frères qui courent d'ailleurs aussi, qui sont marathoniens. Et une petite sœur. Et c'est vrai que ma mère nous a toujours bien nourris, nous a appris les bonnes choses, est une cuisinière assez exceptionnelle dont j'ai hérité de pas mal de recettes.
Ouais,
et c'est vrai que du coup, sport, bouffe, pour moi, ça n'a jamais été incompatible en fait. Ça a toujours été un peu les deux passions. Puis je voyais des matchs de foot, des matchs de tennis avec mon père quand j'étais petit. Et ma mère nous a appris les bons petits plats.
Il n'y a pas d'incompatibilité en tout cas, parce que c'est marrant, il y a des similitudes avec ton parcours, Yodu. Toi aussi, tu viens d'une famille qui aime la bonne bouffe et le vin aussi.
Bah, moi je suis issu d'une famille agricole, donc les grands repas, l'élevage de canards à la maison, les poules, enfin on a tout. Le lien à la terre, moi j'ai tout à la maison, j'ai toujours mangé les canards que je voyais gambader à 20 mètres de chez moi, les poules, les œufs, enfin et voilà. Et après le bon vin aussi, moi j'ai fait des études pour ceux qui ne le savent pas, dans le vin à la base. Montbazillac, j'étais prédestiné pour reprendre le domaine familial de mon père à Montbazillac. Bon, la course à pied a fait que je me suis retrouvé coureur, et à un moment donné, à 18 ans, j'ai fait le choix de basculer sur la course à pied, tout en me disant, si jamais je perce pas, je reviendrai dans le vin. Et donc, du coup, j'ai toujours adoré déguster, bien manger, et j'ai tout, pareil, moi, j'ai même tout au long de ma carrière, j'ai jamais trouvé incompatible le fait de bien manger, de me faire plaisir, de manger un magret de canard avec du miel dessus.
De la bonne protéine.
Ah ouais, mais je me régale là-dessus. Et de me dire, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de faire du haut niveau, d'aller en équipe de France, de faire des sélections, de faire des championnats d'Europe.
Tu t'es jamais restreint dans ta carrière pendant 20 ans de haut niveau.
Alors, il y a restreindre et restreindre, c'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé de ne pas bien manger, de pas aller au restaurant pendant 2 mois pour me dire, je mange que à la maison, je mange que des pâtes et du riz et de l'ébli à la maison, et je sors pas et je mange que du blanc de poulet et tout ça. J'ai besoin d'avoir une soupape de décompression à un moment donné mentalement dans la préparation. C'est tous les 15, c'est un discours que tu dois avoir avec toi-même et te dire, bah, j'ai besoin de cet aliment plaisir, d'aller me faire plaisir. Et du coup, je le faisais avec grand plaisir, et quand je le faisais, bah, je me régalais à manger ça. Et je trouvais que j'étais plus équilibré que certains potes qui faisaient 5 semaines le taf à fond romeux comme des oufs. Ils rentraient chez eux, ils te déglinguaient les Kit Kat, les M&M's, les machins, les verres de coca et tout.
On te voit, Alice.
Et pour le coup, ils basculaient d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'ils faisaient le taf. Et puis par contre, quand ils se lâchaient des fois à un moment donné, même pendant la prépa, ils se lâchaient d'un coup et ils faisaient n'importe quoi.
Ça fait partie de tes problématiques quotidiennes, Alice. Il y a un aspect plaisir et mental qui est important dans ce qu'on dit. Là, la bonne bouffe aussi, ça permet de s'aérer la tête, et c'est un vrai plaisir de manger correctement.
Ouais, complètement. Ça fait partie de l'équilibre, en fait, même chez le sportif, là, comme est en train de dire Yodu. Et c'est vrai que c'est super important de garder quand même la notion de plaisir et pas de tout le temps se restreindre. Parce que le fait de se restreindre, ça peut même engendrer de la culpabilité, de la frustration.
Ouais,
et derrière, en fait, aller vers des aliments qui vont être plus gras, plus sucrés, et un peu des cravings de sucre qui vont aller vers des Kit Kat, des M&M's, des Haribo.
Alors
qu'on peut complètement les éviter si on a ces petits moments de plaisir dans l'alimentation. Et en plus, ce qui est en train d'être dit là, c'est qu'au final, les petits plaisirs, en fait, ça va être de l'alimentation et qui va être du carburant. Donc quand là on est en train de dire du canard avec du miel, au final ça peut très bien être de la protéine et qui va servir pour l'organisme, pour tout ce qui va être réparé au niveau des fibres musculaires et autres. Donc c'est un petit plaisir, mais au final ça va quand même être un carburant qui va être qui va être utilisé par l'organisme. Donc c'est quand même intéressant, quoi.
C'est un plaisir utile, quoi.
Oui.
Pas un plaisir coupable.
Ouais, c'est ça, en fait.
Quand est-ce que tu te dis, je vais en faire mon métier? J'aime tellement la cuisine que j'ai envie de basculer là-dedans et de faire des émissions là-dessus.
Au départ, j'ai fait des études de sciences politiques.
Ouais.
J'avais vraiment l'idée d'être journaliste, mais je m'imaginais plutôt journaliste dans la politique ou la culture ou ce qu'on appelle l'infogéné, quoi.
Ouais, bien sûr.
Les infos générales. Et puis, peu à peu, je suis arrivé à l'Express, qui était... Ce news magazine qui avait pas mal d'impact il y a une vingtaine d'années, même s'il existe toujours. Et je suis devenu en fait journaliste gastronomique parce que j'avais cette passion. Vous savez, en conférence de rédaction, quand vous commencez à proposer le portrait de tel chef, un article sur tel produit que vous aimez bien, etc. En fait, je me rends compte que...
La conférence de rédaction, c'est quand tout le monde se réunit le matin, on dit quels sont les sujets qu'on va traiter, et chacun propose ses idées. Il y a un ensemble de journalistes, et chacun dit,
exactement.
On peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça.
Et l'alimentation, la gastronomie, la cuisine, ça revenait assez souvent dans mes propositions. Et c'est vrai que ce qui avait un peu ancré en moi une espèce de passion que j'avais cultivée, mais qui était plus un hobby personnel, finalement, j'ai fini par le convertir en vraie spécialité professionnelle. Et c'est comme ça que je suis devenu un peu... C'est un mélange de hasard et d'envie.
Ouais.
Je suis devenu critique gastronomique il y a maintenant 25 ans.
C'est ça. T'as pas eu la frustration de te dire, entre guillemets, je m'enferme là-dedans? Non, au contraire, toi, t'as voulu pousser le truc.
Oui.
Après, il y a l'aventure France Inter qu'on va déguster, kikiner au milieu d'un été, je crois, comme ça. Puis au final, qui s'installe sur la grille de France Inter, qui est une grande radio française.
Exactement.
Non, t'as pas eu ce côté-là, toi. Au contraire, t'as eu le plaisir de pousser ta passion comme ça, et de pousser les... Parce que ça n'existait pas, finalement, à l'époque.
En fait, il y avait des critiques gastronomiques, c'est quand même une grande tradition de journalisme français, mais c'est vrai que lorsque je suis devenu journaliste restaurant, critique restaurant pour l'Express, comme l'Express avait quand même un impact assez fort, il y avait toujours eu une tradition de critique gastronomique dans ce journal. Mmh. Après, c'est vrai que j'ai été repéré par la radio, par la télévision, par l'édition. Et c'est ainsi qu'on m'a proposé de faire des émissions. En fait, tout est arrivé un peu à moi. Alors, j'ai travaillé, évidemment. Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai cultivé, entre guillemets, ma culture gastronomique. Je suis allé beaucoup, beaucoup, beaucoup au restaurant, parfois un peu trop. J'allais jusqu'à... 10 fois par semaine au restaurant, midi et soir.
Ah ouais, ça fait beaucoup.
Le rêve. Pour trouver les bonnes adresses, etc. Sachant que de temps en temps...
On ne tombe pas toujours sur les
bons. D'abord, on ne tombe pas toujours sur les bons. Et puis par ailleurs, vous savez que quand vous faites ce métier, votre outil de travail principal, c'est votre corps. Et c'est comme une voiture, quoi. Il faut l'entretenir un peu. La tuyauterie parfois peut déconner.
T'as pas eu une oscillation du poids ? Non, t'as réussi à garder la ligne. Ah si, t'as
alors, globalement, je suis de tempérament un peu nerveux. Je m'active beaucoup. J'ai l'impression que mon métabolisme fait que je brûle pas mal. D'ailleurs, la course à pied me permet de garder la ligne aussi. Hein.
Ouais, bien sûr.
Mais je peux avoir des variations quand même. C'est-à-dire que l'été, par exemple, quand je suis paradoxalement très détendu, que je travaille moins, je prends quelques petits kilos. Ouais.
Ouais. Quand un critique gastro va comme ça tester un restaurant, comment tu choisis le plat ? Tu prends le plat signature, tu choisis au hasard de la carte. Comment ça se passe dans ces cas-là ?
C'est une très bonne question. En fait, j'essaie de choisir les plats qui ressemblent le plus à la cuisine du chef ou de la chef. Donc effectivement, plat signature,
donc,
etc.
Donc il y a un travail anticipé où là, tu bosses le chef, la signature, sa spécialité.
Oui, pour essayer notamment de me dire la meilleure façon de comprendre la cuisine, c'est peut-être de choisir... Je demande souvent d'ailleurs, si je ne suis pas assez renseigné, je demande souvent au maître d'hôtel ou au serveur quel est le plat un peu dont le chef ou la chef est fier.
Parce que tu es vite repéré en fait.
Ouais.
Aujourd'hui,
alors, je réserve toujours sous un faux nom. Ouais. Je paye toutes mes additions.
Il
est vrai que quand j'arrive au restaurant, on sent un petit frémissement. On sait que maintenant on me connaît parce que j'ai montré ma figure et puis je suis dans des émissions de télé, etc. Mais il y a un petit moment un peu de flottement et puis après effectivement je me comporte comme un client lambda. Je goûte de préférence des plats signatures pour avoir vraiment une idée de la cuisine du chef.
Et comment puis, tu commandes ? Tu prends plusieurs plats ou t'en prends qu'un ?
Non, je me comporte vraiment comme un client lambda. Ouais. En revanche, de plus en plus, et même pour mon émission Très Très Bon, j'y vais accompagner, ce qui permet de doubler la mise en fait. C'est-à-dire que moi j'ai juste une seule règle, j'invite la personne avec qui je déjeune, puisque j'ai des frais qui me le permettent. En revanche, on s'arrange pour prendre des plats différents, deux entrées différentes, deux plats différents.
Donc tu goûtes aussi...
Pour avoir le spectre le plus large, Et puis après, c'est vrai que je laisse aussi parler mes envies. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les plats signatures, mais il y a aussi les plats qui me font envie. Il y a évidemment, dès qu'il y a un riz de veau par exemple, moi j'adore le riz de veau, le canard, j'aime aussi beaucoup ça. Donc c'est vrai qu'il y a des chances que j'y aille lorsqu'il y a des spécialités qui me font plaisir.
Ouais. On en a pas marre du resto au bout d'un moment, non ?
Si.
Si.
En fait, on en a régulièrement un peu marre. Ouais. Même parfois de temps en temps, je suis en service commandé, je dois y aller le soir, j'ai une vie de famille.
Ah oui.
Je préfère rester un peu à la maison. Parfois, c'est pas toujours la sortie. Et puis, au moment général, la vie est assez bien faite et mon métier est assez bien fait. C'est au moment où je pourrais me lasser un peu, avoir eu 2-3 expériences un peu moins convaincantes. Tout d'un coup, boum, vous avez l'expérience géniale d'un restaurant où vous avez vraiment kiffé, pris votre pied et qui vous rebooste dans votre métier de chroniqueur. Okay. Vraiment, l'expérience où vous vous dites, là, il y a la flamme, il y a l'inspiration, il y a l'intelligence de cuisine, il y a les bons dressages, les bons assaisonnements, les bons équilibres de saveurs. Et là, vous êtes conquis et vous repartez pour un tour.
Comment on gère un coup de cœur ? On a envie d'y retourner ou on se dit, je le garde et je garde ce souvenir et j'évite de...
Ah non, malheureusement, moi, je ne le garde pas. C'est ma matière première. Ouais. Je m'empresse de partager mon coup de cœur. C'est-à-dire, sauf 2-3 restaurants qui font vraiment partie de ma sphère privée dont je n'ai jamais parlé.
Ok.
Où je peux aller.
T'as des spots
très
privilégiés.
Notamment, on a un trip dans un restaurant avec ma femme où je vais depuis une quinzaine d'années. Je n'ai jamais parlé de ce restaurant parce que c'est ma femme qui me l'a demandé. Elle me dit mais on va.
C'est le nôtre.
C'est nôtre. Il est pas loin de la maison.
Ouais.
On va pas
médiatiser ça.
On y va. Je pense que le chef c'est un restaurant asiatique. C'est ce que je peux dire. On l'adore. Je pense que le chef ou les patrons savent même pas qui je suis. Et c'est une espèce de
un plaisir.
De petits refuges confortables où je suis tranquille. Mais ça, c'est l'exception. Parce que sinon, dès que j'ai un coup de cœur pour une table, évidemment, à la radio, à la télévision, sur mes réseaux sociaux, je m'emballe, j'y vais et j'adore en dire le plus grand bien quand je le pense vraiment, parce que je sais que je rends service à un restaurant, ouais, et je partage par ailleurs un coup de cœur pour tous ceux et celles qui me suivent, quoi.
Est-ce que quand on n'aime pas, on atténue les critiques quand même ? On va pas trop loin dans la critique.
J'avoue que je me suis un peu arrondi avec les années. J'étais peut-être un peu plus entre guillemets roquet quand j'étais plus jeune. Mmh. Quand on veut se faire une réputation, de temps en temps, il faut ce qu'on appelle un peu un tableau de chasse, c'est-à-dire que je dis pas qu'on force le trait et qu'on dit que c'est mauvais quand c'est bon, mais en revanche, quand c'est pas très bien, on n'hésite pas à le dire, quitte parfois à appuyer un peu sur le trait. Et c'est comme ça qu'on se fait aussi un peu repérer. Alors c'est un truc un peu, c'est pas un exercice de baltrap, parce qu'à un moment donné, il faut mettre aussi le curseur de la critique au bon endroit. Ouais. Mais c'est vrai que de temps en temps, on peut forcer un tout petit peu le trait. Ça m'est arrivé avec des grands chefs. Mais aujourd'hui, désormais, surtout compte tenu des difficultés que rencontrent les restaurateurs qui, globalement, depuis quelques mois, en bavent un peu, ouais, compte tenu du contexte géopolitique, ouais, des incertitudes, de la crise économique, ouais, c'est vrai que là, pour le coup, on n'a pas envie de les flinguer à bout portant.
Pour rien.
Donc on y va... Alors, la critique, elle existe, et il faut qu'elle existe, ouais, sinon mon métier n'a pas de sens.
Bien sûr.
Mais en revanche, j'arrondis un peu les angles et j'y vais de manière constructive.
T'as déjà eu des problèmes avec des chefs qui ont mal reçu une critique ?
Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui.
C'est pour ça que tu as fait de la course à pied.
Alain Ducasse, par exemple.
Ah,
il y a des grands chefs qui ont mal pris certaines de mes critiques et qui me l'ont vivement fait savoir, quoi. Ouais. Il y a même des chefs qui m'ont définitivement tourné le dos.
Ah, carrément. Ah ouais, rancunier, quoi.
Ouais.
D'accord. Bon, tu l'as vécu comment ?
Je trouve ça dommage.
Ouais.
Parce qu'en l'occurrence, en parlant d'un grand chef connu, j'ai critiqué un de ces restaurants et ma critique, je pense, était vraiment très juste. Je l'ai même relu plusieurs fois pour voir si j'exagérais pas trop. Il se trouve que d'autres confrères du Figaro et d'autres supports que je connaissais bien étaient d'accord avec moi, alors qu'on avait écrit, évidemment, sans se concerter nos papiers. Ouais. Et c'est vrai que même 12 ans après, le chef m'en veut encore et on se parlera plus, quoi.
Ok, ouais, c'est bien dommage.
Oui, c'est dommage.
Bon, t'as le plaisir de goûter, est-ce que t'as le plaisir de cuisiner ?
Ah oui.
Ouais, ça aussi.
J'ai le plaisir de cuisiner, mais j'aime bien cuisiner efficacement pour aller droit au but, sans forcément passer une journée en cuisine, en sortant les poches à douille,
donc
les
pas de
ustensiles.
Le côté esthétique quand t'es à la maison, il n'y a pas de...
Moi, esthétique, j'essaie de faire en sorte que ça ressemble quand même un peu à quelque chose, parce qu'on sait que la gastronomie, ça commence par l'œil.
Ouais.
Mais je ne suis pas dans les dressages millimétrés, etc. D'abord, je ne sais pas trop faire, je n'ai pas de formation culinaire.
Ouais.
Et en plus, j'ai l'impression que je cuisine un peu comme ma mère et ma grand-mère cuisinaient, c'est-à-dire... une bonne cuisine familiale avec de bons produits. J'adore faire mon marché, évidemment, en amont. Je pense que la bonne cuisine, elle commence par l'étal des commerçants de bouche.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que je fais des recettes mijotées avec un bon rapport effort-résultat. Pas trop d'efforts, ouais, pour un résultat très satisfaisant. Et puis je cuisine pour ma famille qui adore ça.
Il y a mon producteur qui me dit, moi j'ai sa vinaigrette qui est extraordinaire.
Ah ouais,
tout le temps.
La vinaigrette magique.
Ah ouais.
Sauce soja, vinaigre balsamique,
ah,
vinaigre de vin.
Ah.
Et vous mettez le double de dose en huile d'olive.
Okay.
Donc une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe de vinaigre de vin. Ça fait 3 cuillères à soupe et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous m'en direz des nouvelles.
Ah,
shaker,
ouais.
Et vous n'avez pas besoin de mettre le sel parce que la sauce soja apporte la juste proportion de sel.
Ouais.
Et vous avez une vinaigrette exceptionnelle que j'ai piquée à mon amie Andrézana Namura, qui est une super autrice culinaire.
Bon,
allez, c'est noté.
Il n'y a que des bonnes choses là-dedans, Alice. On peut conseiller.
Il y a un peu de sucre.
Ouais. Avec la sauce soja, mais c'est pas mal en vrai. Avec l'huile d'olive et tout, c'est une bonne vinaigrette.
Bon, bah ça va alors. Alors justement, revenons à ta pratique de la course à pied. Et je voulais juste faire le lien, oui, parce que dans une table d'un restaurant, il y a aussi un lien à l'alcool.
Et oui.
Quel est ton rapport à l'alcool ? Est-ce que quand tu goûtes, tu mêles le vin qui va bien au plat ? Est-ce que tu te restreins quand tu fais 5-6 restaurants par semaine ? Comment tu gères ta consommation d'alcool ?
Je fais attention. Alors c'est vrai que je fais plus attention aujourd'hui, une fois passé mes 50 ans, qu'il y a quelques années, où de temps en temps, je pouvais... pratiquer l'excès avec modération comme dit l'autre,
ouais,
c'est-à-dire de temps en temps boire un coup quand on est emballé par une belle cuvée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment régulé ma consommation d'alcool. Je me refuse d'arrêter l'alcool, sauf en période un peu particulière, notamment plusieurs semaines avant un marathon par exemple. Là j'arrête.
Ah ok.
Ah là j'arrête net.
Ok.
Mais quand je dis j'arrête net, pas tout à fait, c'est-à-dire que je n'ingurgite pas vraiment d'alcool. En revanche, il y a un truc qui est bien fait, c'est que lorsque vous voulez quand même ressentir un vin, il y a le nez. Vous pouvez tremper les lèvres, vous pouvez recracher le vin, et ça je le fais souvent, c'est-à-dire qu'on peut profiter de l'équilibre d'un vin, de sa puissance, de sa profondeur, sans en boire des litres et des litres, quoi. Donc ça, je le fais encore beaucoup au restaurant, mais il est vrai qu'en termes de quantité ingurgitée, là, pour le coup, je me suis considérablement calmé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes où, de temps en temps, quand je vais dans un restaurant où il y a une très belle cave et que je veux profiter d'une bouteille, en général avec quelqu'un ou deux personnes qui m'accompagnent, je me fais plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que l'alcool n'est pas totalement compatible avec la course à pied, il faut que je fasse attention. Et d'ailleurs, les fois où j'ai bu le petit verre de trop,
le lendemain,
l'entraînement... Alors en général, ce n'est pas le lendemain, parce qu'étonnamment, moi, le lendemain, j'ai l'impression, mais non, en fait, j'ai la pêche, tout va bien, ouais. etc. C'est, on le paye un peu plus tard. On le paye avec un tout petit retardement de 24 ou 48 heures.
Là, c'est le surlendemain, 48 ou 72 heures après.
Ouais.
Les bons conseils sur la consommation d'alcool, Alice, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous écoutent, qui aiment bien vivre aussi, comme François Régis ou comme,
la fameuse bière après la séance.
Voilà, la bière après la séance. Ouais. L'impact de l'alcool, d'ailleurs, sur la pratique de la course à pied, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Ah, c'est vrai que l'alcool ne va pas apporter du tout de positif dans la pratique de la course à pied par rapport à si tu me sors n'importe quel aliment où je pourrais te dire sûr. Un peu, bon, il peut avoir sa place à un moment donné. L'alcool, ça va vraiment être l'aspect plaisir et lien social aussi pour beaucoup de monde parce que c'est le moment de. C'est souvent on partage avec des amis un repas, il y a de l'alcool. Mais c'est vrai que dans la pratique de la course à pied, pendant une prépa marathon qui peut être intense ou autre, vaut mieux vraiment diminuer l'alcool et le garder vraiment. Pour le moment, plaisir, si on va à un apéro avec des amis et tout, mais les semaines avant le marathon, faut mieux essayer de diminuer quand même la consommation. Quoi.
La veille d'une sortie longue, c'est très mauvais, j'imagine. Le samedi soir avec les amis, longue, comme ça, ouais, c'est ça.
Bah, je pense que la sortie longue, vaut mieux la décaler du coup un autre jour, parce que le risque de blessure, il est quand même, même plus important.
Parce que ça entraîne quoi d'ailleurs, précisément, de la déshydratation, c'est quoi c'est...
Bah, en fait, c'est même l'acidité. Un gros travail au niveau du foie qui va devoir éliminer la molécule d'alcool. Donc tout ça, ça va entrer dans un processus de détoxification de l'organisme. Et la molécule d'alcool, elle va rester dans le sang assez longtemps. Donc, le temps qu'elle soit éliminée, faut boire beaucoup d'eau. Et du coup, il y a un risque de déshydratation aussi derrière si on ne boit pas assez d'eau, puisqu'il faut éliminer l'alcool qui est dans le sang. Ça entraîne de l'acidité et de la raideur aussi au niveau musculaire.
Il vaut mieux éviter quand vous êtes dans la période charnière de la prépa marathon. Il y a quelques semaines dans lesquelles il faut faire attention. Par contre, la bière, une fois que la ligne d'arrivée est passée, vous pouvez y aller.
Ah là oui, voilà, t'as pas besoin de beaucoup de bière, c'est ça après marathon.
T'es déshabitué donc c'est sûr. Est-ce qu'un critique gastronomique apprécie la malbouffe et le fast-food ou pas du tout?
Franchement, c'est pas du tout pour donner de leçons, mais pas vraiment. J'ai des guilty pleasures, je peux vous les citer.
Ah oui, on veut.
Non mais par exemple, je m'en cache pas vraiment, j'ai toujours adoré depuis tout petit, même si j'essaie de restreindre ma consommation, c'est les bonbons Haribo. Faut pas que je sois en face d'un paquet de Dragibus ou de Carensac parce que je lui pète la gueule quoi. Mais en revanche sincèrement, les produits ultra transformés, c'est pas mon truc. J'ai pas été éduqué comme ça. J'ai fait attention aussi avec mes filles à...
T'arrives à résister avec tes enfants?
Ouais, parce que pour le coup, c'est, je fais pas trop d'efforts, j'ai pas de mérite parce que je fais pas trop d'efforts de m'écarter. Alors, il peut y avoir de temps en temps un ou deux biscuits industriels que j'aime bien, soyons clairs.
Non, mais elle, est-ce que t'arrives à les écarter du chemin du fast-food?
Pas simple. c'est vraiment pas simple. Ouais. Je me retrouve de temps en temps à rentrer à la maison et puis je vais regarder dans la poubelle de recyclage. Il y a des sacs en craft avec un grand M d'une enseigne de fast-food. Bon, qui est-ce qui a mangé ça? Et en même temps, je me refuse à leur interdire totalement parce que sinon, je pense que ça les pousserait dans les bras du diable. Donc, je préfère qu'elles régulent elles-mêmes. Je leur explique, je fais un peu de pédagogie là-dessus. Il y a quand même un problème aujourd'hui sur cette alimentation par rapport à tous les additifs qu'elle comporte et qui sont clairement délétères pour notre santé et dont les effets sont toxiques et peuvent même générer des maladies dites de civilisation, etc. C'est vrai que donc j'essaie de faire très attention à ça et je me tiens à l'écart. Et puis les sodas, il n'y en a jamais vraiment eu dans la porte du frigo, en fait.
Donc ça va, c'est une problématique que tu arrives à éviter à la maison.
Absolument, ouais.
Ça fait partie de tes luttes d'ailleurs, Alice, contre la malbouffe comme ça, les produits ultra transformés. C'est toujours le conseil que tu nous donnes, c'est essayer d'éviter au maximum ce type de produits, quoi.
Ouais, complètement. Bah, pour moi, le secret, c'est vraiment regarder la liste d'ingrédients qu'on va composer un aliment. Et dès qu'on voit que la liste d'ingrédients, elle est vraiment trop longue et qu'il y a plein de choses dedans...
Avec des mots qu'on
comprend pas.
C'est ça, complètement. C'est vraiment les éviter le plus possible et se dire, en fait, moi, quand je vais faire des lasagnes maison, il n'y aura jamais une liste d'ingrédients aussi grande. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'additifs, d'édulcorants et de sel, de choses ajoutées qui ne sont pas nécessaires pour l'organisme. Et pour moi, c'est vraiment un gros... au stop et se dire faut pas les consommer parce que ça va être plus délétère pour notre santé, pour notre organisme, que si je vais consommer des aliments qui vont être bruts et qui vont être cuisinés directement chez soi.
Ah oui, c'est ça. Ça paraît tout simple hein, quand on le dit. Mais...
Les Kenyans ont une très belle alimentation avec peu de produits transformés et tout. Par contre, ils ont un vice, c'est le soda.
Ah, c'est incroyable.
Ah, ils boivent des coca, ah, mais à tire-larigot. C'est ouais. Les sodas, coca sortie et fanta, sortie longue, ils arrivent direct. Et coca.
Ouais,
mais c'est du sucre. Ouais. C'est le plaisir du sucre. Oui. Mais alors après, à côté de ça, effectivement, ils ont une alimentation. Bah,
Il y a un McDo dans le Kenya. C'est brut en fait.
Brut, c'est super sain.
C'est quoi? C'est du riz?
C'est du riz, c'est de leur espèce de
lugali.
Voilà, la farine de maïs et tout. Mais à côté de ça, ils sont friands de coca ou de bonbons.
Mais c'est ce plaisir instantané.
Ouais, c'est le sucre direct après la séance d'entraînement. Ouais.
Mais moi, je dois reconnaître que de temps en temps, le fait de courir et parfois longtemps après une sortie longue, on est un peu déculpabilisé et que ça peut de temps en temps...
La main peut plonger.
Voilà, me mener dans le paquet de bonbons, quoi, en se disant, bon, bah, a priori, c'est du sucre, même s'il faut que je refasse mon glycogène, etc., mon corps en a besoin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal.
Est-ce que t'es obsédé quand une prépa marathon démarre? Est-ce que même dans ton métier, même quand tu dois aller au resto, t'y penses, tu te dis, oula, ça, je vais peut-être éviter.
Le pour mieux un italien qu'un libanais de la sortie longue.
Ça, je peux pas. C'est-à-dire que je peux pas décider des restants que je choisis en fonction de mon entraînement, parce qu'à un moment donné, mes équipes vont me dire, t'es gentil, mais entre courir et manger, il faut choisir.
Ouais, c'est sûr.
Non, disons.
Mais tu l'as dans le coin de la tête, la prépa marathon, quand t'es au resto?
Ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Bah, notamment par le fait que. Là, l'alcool, très clairement, tu diminues, voire t'arrêtes la consommation. Donc, tu demandes éventuellement à ton partenaire de table ce qu'il pense du Croz-Hermitage. Et puis après, ça a un peu orienté, j'avoue, un peu mes choix. C'est-à-dire que je vais m'orienter vers une bonne protéine. Je vais faire attention aussi à des sauces un peu lourdes. Je vais faire attention aux matières grasses. Parce qu'il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que je cours depuis un an et demi. J'avais globalement un système digestif solide, etc. Et... J'ai ressenti des effets de l'entraînement un peu intensif qui a légèrement fragilisé en fait mon métabolisme. De temps en temps, je sentais que j'avais un peu des désordres, des crampes intestinales, où je pouvais avoir des problèmes d'estomac. Alors après, je me suis renseigné, notamment auprès d'un bon copain que tu dois connaître, Alice. C'est Anthony Bertou, qui est un nutritionniste de bonne réputation, et puis c'est devenu un bon copain. En plus, c'était un ancien triathlète, etc. Et j'ai fait le marathon de La Rochelle avec lui, d'ailleurs. Okay. Il m'a pécé.
Okay.
Et il m'explique que c'est un peu normal, en fait, quand on court à haute dose, d'avoir la digestion parfois un peu fragilisée. La
perméabilité de l'intestin,
oui, c'est ça.
Un peu difficile.
Alice, tu confirmes, ça peut arriver.
Ouais, bah en fait, ça fait des micro-lésions au niveau intestinal dues aux contraintes de la course à pied. Et c'est au niveau intestinal, les micro-lésions, ça fait des petits saignements, en fait. Et donc, au niveau de la perméabilité intestinale, il peut y avoir la digestion qui peut être un peu plus compliquée et qui peut même à l'effort, du coup, créer des problèmes de transit.
C'est ça, et c'est pour ça que de temps en temps, au restaurant, c'est vrai que je fais un peu attention. Moi, il y a un plat que j'adore, par exemple, à l'automne. Alors là, c'est plus tellement la saison, c'est le lièvre à la royale. C'est vraiment un plat de la grande cuisine française. Vous voyez arriver une espèce de médaillon de viande. Vous avez l'impression que c'est un dessert au chocolat parce qu'il y a une sauce
comme
noire,
un civet,
nappante, exactement. C'est comme un civet, sauf que c'est lié avec le sang du lièvre, etc. Ouais. Moi, j'en mange deux fois par an. J'aime beaucoup ça, même si je ne suis pas très pro-chasse, etc. Mais c'est vrai que ce plat-là, en termes de goût et de sensation, c'est énorme. C'est pas le plat le plus...
Le plus léger.
Le plus digeste. Et de temps en temps, quand vous avez fait une bonne sortie longue la veille, je peux vous assurer que vous le sentez passer, le lièvre. Quoi. Donc, il faut faire évidemment un peu attention. Et j'ai dû modifier légèrement mes choix.
Ok. Non, mais c'est marrant, forcément, l'adaptation de ton métier comme ça à ta pratique sportive. Toi, tu disais que tu allais au resto souvent, pas comme ça, en athlète de haut niveau. Tu l'es encore aujourd'hui. Mais tu fais attention au resto? Tu regardes le plat, tu regardes un peu ce qu'il y a dedans, tu évites les plats en sauce.
Quand même, quand tu es en prépa marathon, j'évite les plats en sauce. Après, je suis pareil. Moi, à l'inverse, je ne vais pas sur des terrains que je ne connais pas trop. Tu vois, je ne suis pas un gaillard. Je prends pas tout le temps la même chose, mais je reste un peu sur du classique.
On a un spectre beaucoup plus fermé.
Je ne m'oriente pas sur des trucs. Alors que ma copine, à l'inverse, elle peut tenter. Donc, du coup, je vais des fois goûter dans ses plats. Et là je me dis, bon, j'ai bien fait de ne pas le prendre parce que peut-être j'aurais pas.
Ouais, c'est ça.
Il aurait été lourd et j'aurais pas kiffé. Mais. Après, moi, j'en ai besoin et Il faut que les coureurs déculpabilisent de ça, parce que c'est pas parce que tu vas manger de temps en temps au restaurant que ta prépa elle est mise en l'air. Et effectivement, après, c'est les à côté. Moi, c'est pareil, les desserts, ils me font de l'œil, les fondants au chocolat, les profiteroles, machins. Donc là, tout ça, j'essaye quand même d'éviter dans la quand t'es dans les deux derniers mois, tu vois. Après, le reste de l'année, bah, je me fais plaisir, mais dans les deux derniers mois, je lève un petit peu le pied sur ça. Et après, sur le vin, bah, moi, c'est une grande frustration, c'est que j'ai quand même j'avais fait des études dans le vin et l'œnologie, et c'est que j'ai dû presque totalement arrêter. Et du coup, j'en bois pour les repas de famille, à Noël et tout, mais quand je suis dans les restos, je prends pas de vin, sauf si vraiment je suis assez loin de l'objectif ou que je veux me faire plaisir, mais ça reste assez rare. Et le problème du vin, c'est que tu dois déguster pour progresser, pour avoir cette sensation. Voilà, faut entretenir le palais. Et moi, je l'ai pas perdu. Je saurais te reconnaître un bon vin d'une piquette, mais j'ai perdu ce truc-là, et il me tarde de mon après-carrière pour me refaire plaisir sur ces trucs-là.
Ouais. Ah ouais, c'est sûr. C'est vrai, il y a des objectifs.
L'après-carrière, je peux te dire.
Comment tu gères la consommation de viande ? Parce que ça, on dit qu'il faut limiter la viande rouge.
Alors, je suis vraiment pas un énorme consommateur de viande rouge.
Pas un gros viandard.
Par contre, le jour où je tombe sur une belle côte de bœuf dont je connais les origines, qui a eu une belle maturation avec un élevage en amont qui correspond vraiment à ce qu'il faut faire, quoi, je peux vraiment adorer.
Ouais.
Mais c'est vrai que je suis plutôt beaucoup produit de la mer. Viande blanche, j'adore la volaille et je mange beaucoup de poulet. D'ailleurs,
course,
je pense que c'est une bonne protéine que je me cuisine beaucoup blanche. À la maison. Et puis, il y a une autre protéine que j'adore. Je crois qu'elle est très compatible avec les entraînements, mais ça, c'est plutôt à la maison qu'au restaurant. C'est les sardines en boîte. Moi, je suis un fan de la sardine en boîte.
François Gigaudry mange la sardine en boîte.
Mais non, mais avant même, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'avant même que je sache qu'il y avait des oméga 3, et puis même je l'ai choisi avec l'arête parce qu'il paraît que c'est du calcium de manger les arêtes de.
Ah oui. En plus.
Mange les arêtes.
Je mange pas la boîte en métal pour le faire, mais je mange quand même l'arête, et je n'ai appris qu'après que c'était en fait une super protéine. D'abord, il y avait un bon gras, effectivement. Il y a des oméga 3. Il n'y a pas du tout de contamination en métaux lourds qu'on peut retrouver dans le thon ou tous les poissons carnivores comme l'espadon, où il y a un peu plus de risque de traces de mercure, etc. Mais voilà.
Moi, j'ai un problème avec la sardine, c'est que quand tu manges la sardine en boîte, après, tu as le goût de la sardine un peu toute la journée. Quoi.
C'est vrai.
Voilà, tu te coltines une sardine.
Tu sens la sardine
pendant toute la journée.
C'est vrai que c'est un petit plaisir solitaire, mais vous ne pouvez pas être entouré. Ouais.
C'est bon la sardine, Alice, c'est un bon conseil aussi. C'est du produit gras, mais de bonne qualité.
C'est un bon conseil. Bah, déjà, comme ça a été dit, comme c'est un petit poisson, en fait, il ne va pas être carnivore. Et donc, en fait, ça va être le premier de la chaîne alimentaire. Et donc, il va contenir peu de métaux lourds. Et le métaux lourd comme le mercure, c'est ce qu'on va essayer d'éviter le plus possible, et qu'il va y avoir dans les gros poissons qui vont manger du coup les plus petits. Et la sardine, comme c'est le premier de la chaîne alimentaire, ne va pas contenir de mercure.
Ouais,
c'est intéressant.
Contaminé.
Ouais. Ouais, et c'est intéressant à ce niveau.
Allez, vendu.
Et aussi au niveau des oméga 3, forcément c'est une bonne source, et du coup ça va permettre de protéger le cœur et ça aura aussi un effet anti-inflammatoire sur l'organisme. Et c'est vrai qu'on cherche beaucoup d'aliments qui vont être anti-inflammatoires, notamment quand on fait une pratique sportive pour éliminer tout ce qui va être inflammation au niveau de l'organisme.
Et la viande rouge, il faut limiter la consommation. C'est vrai que c'est ce qu'on voit depuis quelques années.
Alors on dit qu'il faut limiter la consommation, c'est parce que en fait surtout la viande blanche va être plus intéressante chez le sportif, parce qu'elle va contenir moins de matières grasses et surtout d'acides gras qui vont être saturés. C'est pour ça qu'on privilégie la viande blanche qui contient un meilleur ratio au niveau protéines lipides que la viande rouge. Et on dit aussi de la limiter aussi beaucoup au niveau de l'élevage intensif et tout ça. C'est pas forcément, les bonnes méthodes maintenant au niveau des animaux.
Tu prends du plaisir à cuisiner, François Régis, les légumes aussi, comme ça.
Ah oui, je suis très végétal.
T'aimes ça le légume, peu importe le légume, les légumes de saison forcément, mais.
Mais franchement, en ce moment, même les légumes d'hiver, moi, toute la famille des choux, j'adore ça. Alors c'est vrai que quand vous faites cuire un chou, parfois de temps en temps, il y a les composés soufrés qui fait que ça peut sentir un peu mauvais dans la cuisine. Mais franchement, le chou pointu, le chou frisé, le chou rave, le chou kale, je les fais. soit sauté avec une petite gousse d'ail et puis un tout petit peu de bouillon de volaille, soit je les fais carrément cuire à la vapeur. Et parfois, je les coupe même en lanières totalement crues pour faire une salade un peu croquante.
Ah ouais.
Et franchement, j'adore les légumes. Puis c'est par ailleurs des fibres, etc. Moi, j'essaie d'appliquer la recommandation de mon ami nutritionniste Anthony Berthoud, c'est jamais un repas sans légumes.
Ouais.
On devrait même en manger au petit déjeuner, en fait.
Ah ouais.
Après, manger des légumes au petit déjeuner, on n'est pas japonais, ou on n'est pas asiatique, etc. Mais, pas simple, en effet.
Ah ouais. Mais c'est quoi, c'est les proportions, c'est ça, Alice, c'est deux tiers, un tiers, c'est ça, genre de, c'est féculents, protéines et légumes.
On va plutôt être un tiers protéines, un tiers féculents, un tiers légumes dans une assiette classique.
Bon,
et après, c'est à ajuster en fonction s'il y a une prépa. Dans l'assiette d'un sportif, on va ajuster en fonction s'il y a une prépa longue, enfin une sortie longue après. Si on revient d'une sortie longue, des choses comme ça, on peut ajuster ce ratio. Hein. Mais classiquement, on va dire un tiers. De chaque.
Puis il y a une famille de produits moi, que j'adore et que je n'oublie pas et qui est d'ailleurs une belle source de protéines, c'est aussi les légumineuses, les légumes secs.
Ouais.
Moi je mange beaucoup de lentilles corail, j'adore le pois chiche.
Pois chiche, c'est bon. Mais
même les lentilles vertes.
Tout ça, il faut le cuisiner par contre.
Faut cuisiner, mais quand vous avez, vous prenez une boîte de pois chiches qui sont déjà cuits en conserve bio, vous les trouvez désormais dans tous les supermarchés. Sincèrement, c'est une belle source de protéines que vous pouvez allier avec des céréales. Moi j'aime.
Pois chiche vinaigrette, c'est bon. Hein.
Mais ouais.
C'est vrai. Mmh. Ouais, c'est vrai.
Bien sûr, c'est très, voilà, très, très méditerranéen.
Ouais, c'est ça. Exactement. Parlons de ta prépa marathon. T'en es où? Comment ça se passe? Est-ce que t'es confiant pour aller chercher un RP alors?
Alors, j'étais confiant jusqu'à 3 semaines et puis j'ai un petit bobo au genou gauche.
Essuie-glace.
Mais ouais, mais alors moi je connaissais pas du tout parce que. Jusqu'à, bon, j'ai pas un lourd passif de coureur, mais je m'étais pas vraiment blessé. Et puis là, j'ai réattaqué en fait. J'ai donc fait La Rochelle le 30 novembre. Après, j'ai couru tranquillement au mois de décembre et pendant les fêtes. Et j'ai réattaqué un entraînement peut-être un peu fort, en plus en changeant de chaussures au mois de janvier.
T'as cédé aux plaques carbone ou pas encore?
Oui.
Oui,
séance tempo un peu intense avec des plaques carbone, etc. Et puis j'ai vu apparaître une douleur que j'ai peut-être un peu méprisée et négligée.
Au début, ouais.
Voilà, à l'extérieur du genou gauche. Bon, et puis des potes avec qui je cours, notamment avec Radio France le jeudi, etc., me disent « cherche pas, il y a toutes les chances que ce soit le TFL
».
Je dis « le quoi ?» Le TFL, je connaissais pas l'existence de ce qu'on appelle la bande de smoking, là, l'espèce de muscle comme ça, latéral sur l'extérieur de la cuisse. Et c'est vrai que cette douleur avait du mal à partir, et je suis allé voir des kinés. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Je pense que je suis en fin d'inflammation, mais ça fait quand même 3 semaines que...
T'es un peu à l'arrêt, quoi.
À l'arrêt. Alors, on me dit, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment en penser. Ton avis m'intéresse d'ailleurs. Il y en a qui disent qu'il faut carrément s'arrêter pour que ça se répare et que l'inflammation baisse. Et moi, j'ai continué, en fait, à courir un quart d'heure, 20 minutes, tous les deux jours, jusqu'à ce que la douleur... Enfin, ce n'était pas une douleur intolérable, insupportable, mais c'était quand même un vrai frottement. Ça grinçait, quoi.
Quand tu descendais les escaliers vraiment. Au quotidien...
À froid, t'as mal, ouais. Enfin, t'avais mal ?
Alors, j'avais pas mal en marchant normalement, mais le truc vraiment symptomatique,
c'est les escaliers.
J'habite au 5e étage, je prends pas l'ascenseur pour essayer de faire un peu d'exercice,
et
en descendant les escaliers, plus qu'en les montant d'ailleurs.
Oui, c'est normal.
Mais en descendant les escaliers, là, je me dis, mais carrément, je boitillais dans l'escalier. Quoi.
Ah ouais. Pour décrire la douleur du TFL à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment sur le côté externe du genou, et c'est comme si vous aviez, comme s'il y avait un ligament qui était en surchauffe. Quoi. Et vous sentez que ça frotte.
Exactement.
Et c'est une douleur qui, au bout de certaines minutes, peut devenir insupportable. Et vous contraindre à l'arrêt total. Hein.
C'est-à-dire
que vous êtes en train de courir, la douleur elle monte crescendo, d'un coup c'est terminé, vous avez tellement mal.
Pour moi c'est comme une porte qui grince. Quoi.
Ouais, c'est un
truc à chaque pas et dans des postures très particulières. Parce que par ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi je fais énormément de yoga depuis 10 ans. Un yoga Iyengar qui est un super yoga, j'en fais 4 heures par semaine, le lundi et le mercredi. Je fais une séance de 2 heures à chaque fois avec un prof.
Ah ouais.
Et je ne ressens pas la moindre douleur dans toutes les postures de yoga. Avec le TFL. Ça veut dire que c'est vraiment un truc. J'ai l'impression que ma douleur n'existe même pas en fait quand je pratique le yoga.
Et c'est pas lié aux chaussures ?
Eh ben, je suis revenu. Oui, oui. Je pense que c'est d'avoir
repoussé
dès le début,
pas assez entraîné. Ouais.
Dès le début, puis je pense que le facteur chaussure a certainement joué aussi un peu.
Carbone.
Et puis après, c'est surtout qu'au début, je me suis dit non, mais ça va passer. En fait, j'ai manqué d'expérience. C'est-à-dire que pour le coup, le signaux du corps qu'on n'arrive pas à interpréter, c'est en général un truc de novice.
Ouais.
J'ai continué à courir sur ma douleur. Je pensais qu'elle allait s'effacer, et puis en fait, je me rendais compte que même en sortie longue, à un moment donné, j'étais parti pour un 19 km. J'ai dû m'arrêter au 16e parce que j'avais trop mal.
Mmh.
Non, mais ça, et quand une douleur augmente à mesure de la course,
c'est
quand même pas bon signe. Ouais.
Oui. Des fois, elle peut s'estomper. Après, des fois, le TFL, plus tu cours vite, moins t'as mal.
Oui, c'est ça.
Mais
ouais,
c'est une douleur qui est assez bizarre. Ouais. Mais par contre, effectivement, les sensations au réveil doivent alerter. C'est-à-dire que si tu le sens dès le matin au réveil, quand tu descends les escaliers, bon, ben, là, c'est vraiment pas bon signe. Et moi, je fais plutôt partie de la team faire quand même des petits trucs, des petits footings, tout en faisant du renfo, des soins, des étirements, des massages profonds pour détendre la zone, changer ne plus remettre les chaussures qui ont créé l'inflammation. Mais je suis plutôt de la team maintenir quand même une activité physique, surtout sur un TFL, parce que tu sais que tu peux pas casser un truc. C'est-à-dire que c'est pas osseux, c'est mécanique. Voilà. Ça peut pas fissurer, ça peut pas lâcher, tu peux pas te péter pour 6 mois.
Tu conseilles la bandelette là, parce que ça se vend désormais.
Et oui, il y a plein de potes qui me parlent de cette bandelette.
Ça marche. Moi, je l'avais utilisé une fois quand j'avais démarré la course à pied il y a une quinzaine d'années, et c'est vrai que c'était lié aux chaussures. Moi, quand j'avais changé de chaussures, je trouvais que ça soulageait. Mais en fait, c'est un nouveau changement de chaussures qui avait complètement fait disparaître la douleur.
Après, c'est aller voir un podologue, mettre des semelles pour compenser et faire en sorte que tout le côté de la jambe, les fascias, se désenflamment.
Il y a peut-être un effet placebo. Peut-être que
et après, ça peut jouer, l'effet placebo, pareil.
Et il y a autre chose, c'est que si tu as toujours le même parcours aussi, c'est que si tu cours sur une route un peu bombée.
On m'a noté qu'il fallait aussi varier les natures de sol. Ouais. Et parfois, je courais un peu autour du lac.
Toujours dans le même sens.
Ouais. Et ça, je suis un peu superstitieux en plus, donc j'ai besoin d'avoir mes repères, etc. Et là, j'ai commencé à prendre un peu la tangente pour aller dans des chemins de forêt plus souples. En plus, c'est l'époque où il y a encore des feuilles mortes. Et puis on m'a dit un autre truc pour le TFL que j'ai appliqué qui vraiment a fait un effet. C'est un kiné qui s'appelle Flavio Bonnet, qui est absolument top. Il est dans le 5e arrondissement. C'est un kiné vraiment spécialisé dans la course à pied.
Ouais.
Il me disait qu'il fallait écarter ses deux jambes de 2-3 cm.
En courant
l'écart. J'ai commencé à le faire et sincèrement ça m'a immédiatement c'est un peu dur
de changer sa façon de poser le pied,
c'est pas la foulée, c'est l'écart des deux pieds en fait. Et en les écartant de 2-3 cm, après il faut bien être attentif à continuer à le faire. Sincèrement, je sais pas si c'était un placebo ou si c'était le fait que c'était la fin de l'inflammation, mais j'avais l'impression d'être carrément soulagé.
Le problème, c'est qu'en peloton, tu vas mettre des coups de pied. Quoi.
c'est sûr. Non,
qu'est-ce qu'il a, il va courir en canard.
Sinon, essaye le bois de Vincennes. Hein. Si jamais le bois de Boulogne est trop bombé.
Peut-être la bonne, la bonne cure.
Alice t'accueillera avec plaisir.
Avec grand plaisir. Ouais.
On reste sur le même objectif quand même, record perso, où t'es confiant ou
J'aimerais bien passer sous les 3:15 après Paris,
beau, oui.
Je crois savoir que c'est pas forcément le marathon plus roulant.
C'est dur. Ouais.
Parce que La Rochelle, je pense que pour le coup, il y a un peu moins de dénivelé.
La Rochelle est plus roulant. Mais il y a moins de densité. Il peut y avoir. Mais si les conditions météo étaient bonnes, parce que La Rochelle, le problème, c'est le venteux et pluvieux, quoi. C'est fin novembre.
Exactement.
C'est le risque. Mais si cette année, bonne météo.
Mais là, Paris, oui, voilà, 3:15, je pense que c'est raisonnable. J'aimerais bien atteindre ça. En tout cas, là, je pense que je vais pouvoir remettre. À l'entraînement un peu plus intensif et j'espère atteindre cet objectif.
Puis un semi va faire du bien dans la prépa pour décrasser un peu des calaminés.
C'est ça, c'est de Paris, ouais.
Ouais.
Et puis l'expérience du troisième, généralement, plus on en court des marathons, plus on a l'expérience, plus on se connaît et plus on appréhende mieux l'effort.
C'est vrai qu'il y a ça aussi, parce que moi, mon premier marathon à 49 ans à Paris, c'était carrément un saut dans l'inconnu. Alors même si évidemment je m'étais renseigné, j'avais interrogé pas mal de copains qui ont plein de marathons à leur actif et tout. Mais c'est vrai que j'y allais un peu comme plonger dans le grand bain, sans savoir si je vais
réussir à revenir. T'as peur de ce mur du 30e, tout le monde te le vend.
Ouais, que j'ai jamais ressenti moi. Mais le coup, peut-être que je le ressentirai quand j'intensifierai un peu mon effort.
Et sur les ravitaillements.
Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment un mec qui adore la bonne bouffe digère un gel complètement.
Est-ce qu'il a des petits sandwichs maison
artificiels.
Alors j'ai fait vraiment, c'est marrant parce que la première préparation pour mon premier marathon, j'ai fait carrément un refus d'obstacle. J'avais un coach qui me disait, tu sais qu'il va falloir que tu intègres très rapidement dans tes sorties. Je pense que je les ai intégrées un petit mois avant.
Ouais.
Je commence à prendre ces sachets d'une marque.
Tu peux.
c'est noir et blanc, ça s'appelle... Morten. Dont on me disait qu'ils étaient super digestes, etc.
Parce que le goût est un peu plus neutre que les autres, peut-être.
Exactement. Ouais. Et j'avoue que là, c'est pas un grand moment de gastronomie. en tout cas, mes intestins disent merci à Morten. Parce que sincèrement, je les ai super bien tolérés. Ouais. Ça passe très bien. Et d'autant que je les avais intégrés un peu, à un moment donné, j'ai même eu peur de me dire, mais est-ce que je vais avoir des problèmes digestifs le jour J? Parce que j'ai vraiment, vraiment tardé.
Ah, mais ça, c'est essentiel.
Je courais quasiment sans, en buvant un peu, mais il faut dire que bon, on était dans des saisons, février, tout ça, on n'a pas extrêmement en courant.
Ah non.
Mais je buvais très peu pendant les courses et je ne me nourrissais pas carrément pas.
Ah, sur marathon.
Et finalement, j'ai fini par le faire. Et effectivement, le premier marathon, j'ai intégré 5-6 sachets sur les 3h48.
Et pas de problème gastro.
Et aucun problème gastro. Bah,
tant mieux. Et il y a Andros qui pousse les compotes sinon. C'est de la compote un peu boostée en vitamines, mais c'est un peu plus naturel que...
C'est vrai. Et moi, je suis à la recherche un peu.
Et la pâte de fruits aussi, il y a de la pâte de fruits.
Voilà, et on me dit, allons-y sur des bonnes pâtes de fruits, histoire d'allier le plaisir de la dégustation.
Après, il faut mastiquer, ce qui n'est pas très...
Voilà, il faut mastiquer, etc. Mais j'avoue que là, moi qui m'intéresse à toutes les perceptions sorcières...
Ah non, voilà, on va pas chercher de la perception.
Là, j'ai juste envie d'en manger le moins possible et de... C'est pas un énorme kiff, quoi.
Là, on va pas chercher la signature du chef.
On est sur de la cassis.
Ah, il a dosé le cassis comme ça parce qu'il voulait faire ressentir. Non, laisse tomber, hop, prends le direct. Et
ouais, c'est ça.
Ça passera vite. Non, mais c'est vrai que c'est un des aspects essentiels de ta performance sur marathon.
Ah, c'est sûr, ça joue. Hein.
Et méfie-toi juste sur marathon parce qu'à force de battre les RP, un jour ça passe plus.
Oui, ça descendra plus.
C'est bien, on te le souhaite, mais voilà, il y a des jours où c'est plus.
Faut faire comme Duplantis, minute par minute.
Mais oui, parce que.
Parce que sinon, à base de un quart d'heure.
Va pas gagner 20 minutes à chaque fois.
Surtout que j'ai 50 ans, j'ai pas non plus une marge de progression.
Ah, mais ça veut rien dire.
Il faut voir un peu où ça va me mener, mais c'est.
Avec la qualité de l'entraînement, ça peut.
Ah oui.
C'est vraiment excitant.
Oui.
Bon, merci beaucoup d'être venu.
Mais non, c'était un grand plaisir d'être avec vous.
Maintenant, on a faim.
Ah ouais, on a faim.
Merci.
Je veux un magret de canard au miel. Pas mal.
Merci de m'avoir reçu, c'est très sympa.
Merci François Régis. Un grand merci à Alice. Hein. Merci beaucoup Alice d'être venue pour tes conseils précieux. Merci au maître Yodu qui était à Paris cette semaine. Quel bonheur quand tu es là.
Ah oui.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. Toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.